le placard.
Bienvenue à toutes et à tous dans le placard, le podcast qui vous ouvre les portes sur un monde plus queer.
Donc j'ai découvert notre invitée en me baladant sur Instagram. Je ne sais plus trop quel était le sujet de ma recherche Insta, mais voilà. Je tombe sur le profil de cette comédienne atypique, une jeune femme métisse, lesbienne, arborant fièrement une afro. Oui, ça sent le contenu féministe un peu. Bref, voilà, je regarde quelques vidéos de ses performances sur YouTube et pas loupé. Le set sur lequel je tombe parle coming out, racisme ordinaire. Alors oui, aujourd'hui, on aimerait savoir en quoi l'humour queer est-il une révolution ?
Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Tani, l'autre, comédienne humoriste et chroniqueuse chez Vivre FM. Vous avez sûrement entendu parler d'elle après sa vidéo qui a fait le buzz avec plus de 13 000 vues, Je ne suis plus hétéro. Parodie de la chanson Je ne suis pas un héros de Daniel Balavoine. Donc avant de se lancer dans le vif du sujet, nous allons dans un premier temps faire un tour de table en disant notre nom, nos pronoms et où on réside actuellement. On commence par toi, Méfi.
Très bien, donc moi c'est Méfi, je co-présente le podcast avec Eva et j'utilise les pronoms elle et j'habite en Angleterre, à Brighton, sur la côte sud anglaise.
Moi, c'est Eva, j'utilise les pronoms « elle » et je m'identifie comme lesbienne. J'habite sur la côte nord de l'Angleterre, donc sur Liverpool. À toi, Tani.
Eh bien, je m'appelle Tani. J'ai déjà oublié l'ordre. Mon pronom, c'est « elle » et je m'identifie en tant que lesbienne, humoriste, afro-féministe et plein d'autres choses.
Ben, dans un premier temps, merci, encore une fois. D'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, comment vas-tu, Tani ?
Eh ben, ça va très bien. Je suis très contente que les théâtres aient pu réouvrir. J'espère que ça va durer. Et je suis contente aussi d'avoir en perspective quelques jours de vacances aussi.
Ah oui, c'est en vacances la semaine prochaine, c'est ça ?
Exactement, oui.
Tu pars où ? T'as des projets ?
Alors là, ce week-end, je vais aller un peu à Avignon pour le festival. Et ensuite, je vais me balader un peu en Savoie et dans le Luberon. Voilà.
Waouh, nice. Et donc, c'est quoi ça, le Luberon ? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est où ?
Le Luberon, c'est un peu au-dessus de Marseille. Ah. C'est dans la campagne.
D'accord, nice. Ok.
Et donc, tu disais que du coup, les théâtres réouvrent. D'ailleurs, j'ai vu que ton spectacle est complet. Et donc, comment c'est un peu en ce moment la situation en France au niveau
COVID ? Alors, en ce moment, les théâtres ont pu réouvrir à partir de début juin. Okay. Moi, le théâtre dans lequel je joue, qui est un petit théâtre, s'appelle la Comédie des Trois Bornes. C'est un théâtre de 50 places et ils ont réouvert le 9 juin. Donc voilà, moi j'ai pu reprendre mon spectacle à partir du 15, d'abord en jauge réduite. Donc on est à 65%, donc ça fait 30 personnes. Et donc même si là aujourd'hui les théâtres peuvent jouer à 100% de jauge, en tout cas mon théâtre, comme c'est petit et que ils sont encore assez vigilants par rapport au virus, on maintient la jauge réduite jusqu'à septembre. Et donc après, on verra un peu ce qu'il en est, surtout que voilà, là, il y a des discussions sur le pass sanitaire, donc à suivre.
Non, pas ça.
Ouais.
Ça promet. Ok. Ouais. Ouais, parce qu'il faut, en fait, vous faites encore la distance, comme ils disent en Angleterre, le distancing avec siège vide, un siège rempli, un siège vide, quoi. Par alternance.
C'est ça. Ou alors, enfin, pas forcément entre chaque personne, mais entre les groupes de personnes qui sont venues ensemble.
Ok, ouais, ça a du sens. Donc, du coup, première question, avant d'être une vraie question officielle, mais je voulais juste te demander par rapport à ton nom de scène, Tani l'autre. Est-ce que c'est pour faire le distinguo avec l'autre Tani, qui est une comédienne aussi, une comédienne, mais allemande?
Il y a plusieurs raisons. Il y a cette raison-là, assez pratico-pratique, qui est que quand j'ai voulu créer ma page Facebook ou mes réseaux, j'ai vu qu'il y avait déjà donc une Tani qui faisait du stand-up, qui était lesbienne. Donc voilà, je pouvais pas mettre Tani. J'avais pas envie de mettre mon nom de famille, et donc j'ai mis l'autre. Et c'était aussi un peu un clin d'œil par rapport à mon passé, entre guillemets, dans le sens où moi, quand j'étais ado, j'étais plutôt quelqu'un de timide et de réservé. Et donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du stand-up et à débuter ce spectacle, c'était un peu pas la surprise pour mon entourage, mais en gros, bah voilà, c'est l'autre Tani qui ose dire ce qu'elle pense, ose monter sur scène. Et donc, voilà, c'était un peu aussi, bon, on va dire, peut-être mon personnage,
Ton
savoir que
alter
c'est,
ego.
voilà, c'est ça, mon alter ego qui arrive à prendre la parole et dire
Sympa.
ce qu'elle a à dire. Donc, voilà, c'était
D'accord. Et
un peu un
donc là,
clin
on est
d'œil
en
aussi.
présence de qui? Quel Tani? L'autre?
Les deux commencent à fusionner,
Ah.
donc
En mode super saiyan, comme dans Dragon Ball, c'est ça?
Super. Alors, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais? Comme on a dit précédemment, tu as plusieurs casquettes, comédienne, humoriste et chroniqueuse. Quelle est ton activité principale, pardon, ton gagne-pain, comme on dirait?
Alors, faut savoir que je ne gagne pas encore ma vie du théâtre, enfin de mon art. J'ai encore un boulot à côté qui a rien à
D'accord.
voir. Je bosse avec des associations d'éducation à l'environnement. Et donc, pour le côté artistique, je pense que mon activité principale, c'est quand même le spectacle. Donc, j'ai un spectacle d'1 heure qui est un peu du one woman show, du stand-up. Je fais principalement des blagues, mais quand je l'ai écrit, c'était important aussi pour moi qu'il n'y ait pas que des blagues, mais aussi un fond et en tout cas des messages politiques. Donc voilà, ça c'est un peu mon matériau le plus cher. Donc ce spectacle d'1 heure que je joue donc à Paris à la Comédie des Trois Bornes et que je vais essayer de faire tourner aussi un peu dans d'autres villes en France. Et à côté de ça, voilà, je fais des chroniques donc sur Vivre FM, qui est une radio associative. Et puis, ça m'arrive aussi de participer à des événements pour faire des extraits du spectacle ou d'autres sketchs. J'écris aussi ponctuellement pour des revues féministes. Enfin, j'aime bien écrire aussi. Des formats. Enfin voilà, j'aime bien tester d'autres formats, donc on va dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais ça reste quand même toujours avec de l'humour et un petit fond d'engagement.
Comment ça t'est venu du coup cette découverte du stand-up, cet amour pour le stand-up?
Moi, j'ai toujours fait du théâtre, enfin toujours fait du théâtre. Je fais du théâtre depuis longtemps. J'ai commencé au collège, et puis j'ai continué pendant mes études. Et quand je suis arrivée à Paris pour travailler, je voulais absolument en faire. Donc j'ai fait des cours de théâtre classique, on va dire. Et après, j'ai vite pris un virage pour faire de l'impro, donc du théâtre d'impro, parce que je trouvais ça me plaisait beaucoup parce que je trouvais que dans le théâtre classique, en tant que meuf, on était souvent cantonné à un certain type de personnage, de rôle. Et avec l'impro, voilà, tu peux tout faire, quoi. Tu peux être un meuble même si tu veux. Tu peux être un personnage féminin, mais avec un côté très masculin. Enfin bref, ça me plaisait. Je m'amusais plus dans l'impro. Et après, quand je faisais de l'impro, ce qui me plaisait aussi, c'était quand même quand je faisais rire, quoi. Donc, du coup, j'ai pris des cours de one woman show et j'ai commencé à mettre au stand-up. Mais c'était aussi, j'avoue que moi, après, en tant que spectatrice, j'étais une grande consommatrice déjà. Enfin, ça me donnait envie, puisque même voilà, au collège, au lycée. J'aimais beaucoup les spectacles de type Gad Elmaleh, Florence Foresti, Jamel, tout ça. Il y a ça, c'est toujours un truc qui m'a plu, qui m'a attiré, quoi.
Sympa. L'impro, ça doit être dur quand même, je pense. Il faut avoir assez d'imagination,
Oui, c'est vrai, mais j'ai beaucoup d'imagination.
non? Tant mieux! Moi, je pourrais pas, je pense que je serais bloquée, mais
mais après ça prend, mais ce que j'ai beaucoup aimé, même ça, je pense que ça m'a apporté aussi dans ma vie personnelle, parce que en impro, il faut faire confiance aux personnes avec qui tu t'improvises, accepter leurs propositions. Il y a vraiment un truc de connexion et aussi de lâcher prise, quoi. Finalement, justement, il y a des idées qui vont venir dans ton cerveau. Et ben, c'est les premières idées, donc faut les prendre, et tant pis si c'est complètement bizarre, mais voilà, faut faire avec, mais.
Sympathique.
Faut se faire confiance, voilà.
Dans tes sketchs, du coup, quel sujet est-ce que tu abordes le plus ou que tu aimes aborder?
Bah alors du coup, je vais peut-être continuer sur ce que je disais. J'ai tout de suite eu envie de faire. J'ai eu envie progressivement, de faire de l'humour et de faire du stand-up. Et donc j'ai pris ces cours de one woman show et j'aimais beaucoup la pratique. Mais c'est vrai que le moment de passer à l'écriture, c'était plus compliqué. Je me disais mais moi, qu'est-ce que j'ai raconté aux gens? Et surtout que ce que j'aimais aussi dans les humoristes que je regardais, c'était surtout les moments où, voilà, comme je disais, il y avait du fond. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais genre une heure de spectacle sur juste des gags dans le métro ou voilà, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc du coup, je me disais bon bah il faut que je raconte quelque chose d'intéressant. Et en fait, le moment où j'ai commencé le stand-up, c'est un peu le moment où moi, j'ai vraiment fait mon coming out. J'ai eu mes premières histoires avec des meufs. Et je pense que c'était aussi le moment où j'ai déconstruit beaucoup de choses par rapport justement à mes cheveux, à mon afro, par rapport au féminisme et tout. Donc forcément, j'avais envie d'en parler. Donc c'est vrai que dans le spectacle, j'aborde beaucoup le sujet du coming out et de mes premières années de découverte du milieu LGBT et des lesbiennes, quoi, et de qu'est-ce que c'est que d'être lesbienne et métisse aujourd'hui. Et c'était ouais partager ces expériences-là, parce que j'avais beaucoup de discussions avec des potes du coup à qui je racontais par exemple des scènes d'homophobie que j'avais vécues et qui me disaient mais non c'est pas possible, et je disais bah si ça existe, ouais. ou des choses du racisme ordinaire, donc je trouvais intéressant d'en parler et j'avais envie d'en parler et je voulais le tourner de façon un peu drôle pour faire réagir les gens, quoi.
Je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est ta... Ok, attention, c'est une question assez philosophique. Est-ce que tu penses que c'est ta déconstruction qui t'a donné la force ou qui t'a poussé à écrire? Ou est-ce que c'est justement l'écriture qui t'a poussé à te déconstruire? Je te l'avais dit, hein.
Non, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est plutôt la déconstruction qui m'a poussée à écrire, parce que je me souviens, enfin, je sais pas vous comment ça s'est passé, mais j'ai l'impression que j'étais vraiment dans un truc où je me nourrissais beaucoup de, voilà, de lectures, de discussions avec les premières lesbiennes que je rencontrais ou des féministes, et du coup c'est comme s'il y avait plein de trucs qui pétaient dans mon cerveau en mode oh, ah mais oui, ah mais c'est trop ça, ah, et du coup j'avais envie de débriefer et ouais, et de ça m'a nourri artistiquement parlant. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là.
D'accord.
Et j'aimais beaucoup aussi faire des comparaisons justement entre le racisme et l'homophobie, c'est un peu les deux sujets que je traite beaucoup aussi dans mon spectacle. Et qu'est-ce que ça fait aussi d'être à l'intersection de ces deux
identités.
Voilà, c'est ça.
Ouais. C'est super, c'est super riche. Honnêtement, quand j'ai commencé à regarder tes vidéos, tes sets, j'étais surprise. J'étais surprise parce que je me suis dit, enfin, pour la France, c'est vachement avant-gardiste. Et notamment quand j'ai regardé, c'est vrai, c'est triste à dire, mais c'est le cas. Et quand j'ai regardé le teaser, du coup, de ton spectacle qui est en ce moment, j'ai vu que, du coup, dans la salle, t'avais majoritairement que des personnes cis, blanches et hétéros. Et du coup, ça doit pas forcément être facile de performer devant un public comme ça, mais pourtant, t'as l'air à l'aise. Donc, c'est quoi ton secret?
ça change un peu, hein. Il y en a de plus en plus. Je pense que je commence à voir mon public aussi. Enfin, là, en tout cas, les dernières dates que je joue à la Comédie des Trois Bornes, d'ailleurs, c'est très drôle parce que, à un moment, au début, je demande s'il y a des lesbiennes dans la salle. Après, oui. Je demande s'il y a des hétéros dans la salle. Et quand les hétéros n'osent pas répondre, ils sont minoritaires et n'osent pas répondre.
C'est bien. Mais,
On a inversé. Donc, ça change un peu. Il y a de plus en plus aussi de personnes noires, racisées, ouais, qui viennent. Donc ça, c'est cool. Super. C'est vrai qu'au début, ça arrive, ouais, que je joue devant des personnes qui sont pas forcément concernées, mais justement après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, ton spectacle, il est pas mal pédagogique, et en même temps, oui, c'est vrai, c'est un peu finalement, c'est un peu aussi à ces personnes-là que je m'adresse finalement, à des personnes, je m'adresse pas aux homophobes et aux racistes, enfin, je veux dire. Qui sont vraiment conscients. Je m'adresse plus à la frange, je dirais middle, ou qui n'a pas forcément conscience de ses biais, etc. Et ça m'intéresse aussi de les avoir dans ma salle et qui voient aussi la réaction des lesbiennes ou des personnes noires, et que je pense que ça, voilà, ça fait un bon.
Ils s'enrichissent, en fait. Ouais. En fait, ton spectacle.
Ouais, voilà, c'est ça.
Genre, knowledge. En fait, tu viens pour te déconstruire un peu, parce que je pense que les personnes, du coup, qui sont pas forcément concernées se sentent un peu mal à l'aise.
Oui.
Ouais. Mais du coup, ça fait partie de la.
Mais gentiment.
Voilà, gentiment.
Il y a peut-être un peu de peur aussi, le fait de rire d'un truc où on leur a dit, ouais, faites attention, vous pouvez pas dire, ouais, ça. Et puis là, quelqu'un arrive dans une salle en mode, allez, on va rigoler de ça ensemble.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, du coup, comment c'est d'être lesbienne et métisse en France en 2021 ?
Le rire nerveux. Eh ben, écoutez, c'est une lutte, je dirais. Même si j'ai l'impression qu'on avance, on gagne un peu de terrain, ou en tout cas. Pas forcément qu'on gagne du terrain, mais j'ai l'impression qu'on se reconnaît. On commence un peu à faire vraiment communauté. Enfin, là, je pense à la marche qui s'est organisée au mois de juin, là, la marche radicale antiraciste, anticapitaliste, où j'ai vu beaucoup de personnes queer, noires, métisses. Et moi, j'ai l'impression que quand j'ai fait mon coming out, il y avait pas ça. Enfin. J'essaye de regarder aussi le temps long, et c'est vrai que même si aujourd'hui c'est encore difficile, enfin, il y a quand même des progrès de ouf, hein. Moi, quoi, je vois toutes ces personnes qui marchent et qui sont ensemble et qui sont fortes, qui sont puissantes, ça me donne beaucoup d'espoir et de joie. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Mais même si je trouve que la société est encore assez violente envers nous, puisque en plus il y a des personnes qui ne supportent pas. Enfin, c'est marrant parce qu'on j'ai l'impression qu'on vient tout juste de dire on se reconnaît, on se nomme, on est queer, on est racisé, on est noir, on est lesbienne, mais ça, il y a des gens qui le supportent pas. C'est comme si on n'avait même pas eu l'étape reconnaissance, en fait. On vient à peine de pouvoir se nommer que non, vu qu'on se nomme, alors ça veut dire qu'on est des séparatistes. Mmh. Mais non, c'est juste que il faut encore qu'on continue ce travail-là, parce que à la fois il y a ces images qui sont très belles, et à la fois bon, ces images en plus sont très belles, et c'est Paris, mais voilà, quand on sort un peu de cette bulle, il y a encore des personnes en souffrance, et c'est pas gagné, quoi, même au quotidien. Je sais, ouais, pas si je pars un peu dans tous les sens, mais
non, t'inquiète pas, c'est très précis et concret. Justement, d'ailleurs, par rapport à au stand-up, c'est vrai que des sujets queer, féministes, etc., c'est quelque chose d'assez récent. Je crois qu'il a commencé autour des années 2000. Comment, toi, du coup, en tant que... Je ne sais pas si je peux t'appeler nouvelle arrivée dans ce milieu, mais comment ça se traduit, comment tu ressens les choses, comment les choses se passent En tant que lesbienne, je sais pas du tout comment le milieu fonctionne, mais est-ce que tu peux partager tes expériences, tes ressentis?
Moi, je pense que je dirais pas que tout est rose encore, mais je suis consciente que ça va quand même mieux que justement il y a 20 ans. Je suis un peu chanceuse dans le sens où je pense qu'il y a quand même des personnes qui ont vraiment ouvert la voie. Je pense notamment à Shirley, parce que justement j'avais une discussion avec quelques humoristes, on va dire peut-être de la génération avant moi, où c'était vraiment tabou d'en parler sur scène. Il fallait surtout pas. C'était vu comme ça va mettre un frein à ta carrière, ça va te fermer des portes, etc. Donc il y a des personnes qui l'ont fait. Donc je suis reconnaissante de ça. Et du coup, moi, ça me permet aussi d'en parler. J'ai l'impression que quand même, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus vraiment un sujet. Enfin, je pense pas que les gens, comment dire, vont ne pas vouloir programmer une humoriste lesbienne ou gay. Ou, enfin, ça n'arrive plus. Après, je sais que moi, par exemple, j'en parle beaucoup sur scène. Et je sais que ça dérange un peu, enfin, en disons que j'ai beaucoup de discours qui me disent « mais t'as pas peur de t'enfermer, qu'on te réduise à ça, fais des blagues sur autre chose aussi, t'es pas que noire et lesbienne, tu pourrais aussi parler d'autre chose ». Et c'est vrai, mais je fais ce que je veux. Donc, si j'ai aussi envie d'en parler, parce que je juge que c'est important d'en parler, j'en parle. Mais voilà, moi je le sais parce que c'est clair dans ma tête. Mais du coup, j'ai des remarques et des commentaires dans ce sens de « ah bah voilà, aujourd'hui, il faut parler de son orientation sexuelle, de sa couleur de peau et de ses cheveux pour être connu et être programmé. Hein. »
Oh my God.
Bref, faut se mettre des bouchons dans les oreilles, quoi.
Ouais. Il faut
aussi écouter les autres voix qui sont que j'ai aussi des retours où on me dit bah non, ça fait trop du bien.
Exactement,
de voir une artiste comme toi et que t'en parles et tout, donc je pense que c'est un peu le revers de la médaille. mais après je sais que je suis vigilante aussi, où moi aussi là je commence aussi à être dans un truc où j'ai aussi envie de parler d'autre chose, de me dévoiler aussi moi qui je suis à côté de toutes ces identités. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais aussi envie d'en parler et c'est cool.
Ouais.
C'est important. Audacieux, je dirais même, de commencer par ça, parce que du coup, c'est pas forcément, même si on sait que oui, bon, la France, ça devient un peu mieux en termes d'acceptance, entre guillemets, des identités queer et racisées, mais on n'est pas encore là. Donc je pense que commencer ta carrière en parlant de... Bah voilà, de ton coming out, de ton identité lesbienne et le fait que tu sois métisse, je pense que c'est quand même un statement, tu vois, c'est quelque chose d'assez fort. Donc maintenant, tu peux te permettre, après avoir fait le plus difficile, d'aller sur quelque chose de plus facile.
c'est ça, et moi je trouve ça cool parce que en fait, dans l'autre sens, ça veut dire que tu vas rassembler un public qui finalement ne va peut-être pas être ok avec ce que t'es. Bah non, je préfère vous le dire tout de suite. donc voilà. Mais même si peut-être qu'avant c'était pas cette logique là, mais moi, enfin, et je pense que c'est pour ça que moi je m'interroge surtout sur ce que je veux. Et moi, ce que je voulais quand j'ai commencé, c'était pas forcément être une star, remplir des zéniths et être la future Florence Foresti. Enfin, c'est pas forcément ça mon objectif. Non, moi c'était vraiment amener ce sujet-là sur scène. Et c'est pas grave si ça remplit pas des zéniths, mais si ça remplit des salles moyennes avec que des gens qui kiffent vraiment et qui me respectent pour ce que je suis, bah allons-y quoi.
C'est essentiel.
En pensant à ça également, après tout, tous les humoristes, je veux dire, c'est une partie de notre vie, c'est une partie de ta vie, tous les humoristes ont commencé à parler de leurs amours, de leurs déboires, de leur Florence Foresti, pareil, combien de fois elle parle de mecs, etc. Donc, ça devrait même être un cliché,
oui.
En fait.
Non, mais oui, parce que si je ne le disais pas, en fait, vous penseriez que je suis hétéro, mais non, surtout pas.
Mais c'est vrai, c'est normal en fait, au final. Mais c'est juste que vu que ton orientation sexuelle et ton identité, elle ne colle pas avec la majorité, ben tout de suite c'est quelque chose d'extra, enfin de oh ben t'as besoin d'être maintenant lesbienne et métisse pour pouvoir, tu vois, devenir quelqu'un.
Oui, alors, non, bah, mais après en fait... plus. Ouais. Non, mais en plus, c'est vrai que à la limite, je peux comprendre sur des extraits que je mets comme ça. C'est des extraits de 5 minutes sur Internet. Mais justement, dans le spectacle d'une heure, j'explique aussi les difficultés ou les choses auxquelles j'ai été confrontée en tant que personne métisse, en tant que personne lesbienne. Mm-hmm. Et donc, à la fin, les gens comprennent et je leur explique. C'est pour ça que j'en parle. Parce que aujourd'hui, c'est encore une lutte, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, venez voir le spectacle.
C'est ça, la moralité de l'histoire, c'est aller voir le spectacle.
Exactement.
Et toi qui as parlé, juste une question qui me vient en tête comme ça, est-ce que tu sors dans le milieu LGBTQ+, et est-ce qu'il y a une communauté de femmes lesbiennes racisées à Paris ou en France?
Là, avec le problème, c'est qu'avec les confinements, ça a un peu été. J'avoue que je suis beaucoup moins sortie. Je sais pas s'il y a vraiment une communauté de lesbiennes particulièrement, mais en tout cas, il y a une petite communauté de personnes queer racisées qui commence. Je pense à se former. Moi, je vois de plus en plus de. Par exemple, de groupes sur les réseaux sociaux ou bien des événements. Alors, c'est pas forcément un lieu fixe, mais même si je sais que, par exemple, à la Flèche d'Or, c'est un site qui a été mis à disposition par la mairie de Paris. Et il y a un collectif queer qui a investi des lieux et qui fait beaucoup de soirées, d'événements qui sont organisés par des personnes queer racisées et qui s'adresse principalement aussi à ce public. Je pense que c'est plus par des événements où il y a des noms qui commencent à tourner, les soirées La Créole, ou une DJ que j'adore qui est Chita et qui dès qu'elle passe à un endroit, quand même, quand tu regardes autour de toi, t'as quand même beaucoup de personnes noires et queer, donc je pense qu'on commence un peu, à se rassembler et à créer des espaces de rencontres.
On note le nom, du coup, tu nous as dit Chita, c'est ça le nom de la DJ?
Chita, DJ ouais. Chita, ouais.
Ouais.
Elle est géniale, je l'adore.
Ouais. Ok, pour un épisode où elle nous parlera des nuits
parisiennes. Oui, non, mais en plus, elle a créé son label et tout, c'est vraiment génial.
Ah, super.
Ok, cool.
Revenons
vous donnerai son contact.
Revenons-en à tes petites vidéos sur Internet, du coup. Notamment la vidéo « Je ne suis pas hétéro ». Comment l'idée t'est venue? L'idée de faire cette vidéo. Et quel a été ton processus de création?
Alors, à la base, c'était une chanson, d'abord. Et en fait, c'était quand je devais faire une chronique, c'était il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, je devais faire une chronique pour l'émission de radio Gouinement Lundi. Et en fait, c'était une émission sur sortir de l'hétérosexualité. Et donc, du coup, je m'étais dit, peut-être que je vais faire une chanson. Et en fait, je crois j'étais avec une copine en plus et j'ai juste... c'était un délire, je me suis dit je vais chanter je ne suis plus hétéro, et en fait je me suis dit mais on dirait trop la chanson de Balavoine, c'est vraiment parti de là, et j'ai déroulé les paroles de la chanson de Balavoine, et voilà, en un soir j'ai commencé à tout changer, toutes les paroles, et donc je l'ai fait à Gouinement Lundi et ça a été un énorme succès.
Ah, oui.
Du coup elles m'ont dit non mais un jour faudra que tu l'enregistres vraiment au propre et tout. Et du coup, avec une copine, je me suis même dit non, mais il faudrait qu'on en fasse un clip. Et donc, voilà, on s'est motivé comme ça à enregistrer vraiment en mode studio la chanson. Et du coup, pour le clip, au début, on voulait filmer comment dire, des gens dans la rue, enfin des scènes un peu typiques de date hétéro, mais en fait c'était compliqué, il fallait demander l'autorisation des personnes et tout, et donc du coup ça s'est transformé juste en non, mais on va mettre ta tête sur des images de bouts de films vraiment clichés, et voilà, ça s'est fait comme ça, et c'est ma pote Julia Moura qui a réalisé le clip, et vraiment elle a fait un taf de dingue, donc
j'approuve aussi.
Regardez aussi ce qu'elle fait.
Julia Moura, ok, on va la mettre sur nos notes.
Yes. En plus elle fait aussi de la musique, elle s'appelle son artiste c'est aussi Oxytocine, et elle fait du rap bien vénère, bien féministe, donc
Sympa.
Je recommande aussi.
Quelqu'un qui est aussi queer, du coup.
Oui, oui.
Ouais.
Oui, oui.
Bah, super.
Bon, où est-ce qu'on peut te trouver, du coup? Tu fais des spectacles un peu partout sur Paris. Est-ce que tu as des lieux à nous donner, des dates, des prochaines dates, etc.?
Alors, là, les prochaines dates, ça sera donc à la Comédie des Trois Bornes sur Paris jusqu'à fin septembre. Je vais faire une petite date à Avignon là, lundi prochain pour remplacer quelqu'un. Donc, ça, c'est cool. Et puis, la rentrée, c'est vraiment en train de se dessiner. Je vais certainement jouer pas mal aussi au Barbès Comedy Club, qui est le comedy club qui a été ouvert par Shirley. Mm-hmm. Ouais. Donc voilà, et vraiment l'objectif après, c'est de pouvoir concocter une petite tournée. Voilà, j'aimerais bien aller à Marseille, Toulouse, voir d'autres villes, Bordeaux.
Mais du coup, pour faire...
C'est des gens sur Instagram qui me demandent des villes.
Ah oui, j'imagine. Mais du coup, pour faire ça, il te faudrait un agent ou quelque chose comme ça, un manager, ou est-ce que tu en as déjà un?
Oui, bah c'est vraiment en train de discuter, voilà.
Bon, bah c'est bien, on souhaite... On sait tout ce qu'on te souhaite. Qu'est-ce qu'on dit? C'est tout le malheur qu'on te souhaite. Et donc, je vais te poser l'avant-dernière question, parce qu'on arrive sur la fin. Question totalement hors sujet, mais je pense que ça donne une idée un peu de la personnalité des gens. Quel est ton parfum de glace préféré et pourquoi?
Waouh. Il faut en choisir un. On a le droit de dire deux.
Bon.
Un.
Wow. Ouais, un.
Ok, un. Oh, c'est trop dur.
Ok, deux alors.
Yes, je négocie. Non, mais je veux dire coco en vrai.
Ouais.
Sorbet coco, la vie. Et puis après, j'hésite entre. Je suis un peu aussi classique, genre chocolat.
Oh, trop classique.
Ou bien passion.
Ouais. Passion plutôt simple.
Mais on va dire number one, noix de coco quand même.
Ouais, je suis d'accord.
Sorbet coco,
ça, c'est plutôt pas mal. C'est ce que j'ai dans mon frigo actuellement, d'ailleurs.
Je suis trop loin.
C'est ça. Viens, prends l'Eurostar, viens nous voir. Et sinon, moi, j'aime bien pistache. C'est mon parfum préféré.
Ah, ouais. Ah moi, j'aime pas.
Ouais. Ah ouais. Ah, c'est trop
ça divise.
Ouais, ça divise. Et toi, Emma, c'est quoi ton parfum préféré?
Moi, j'aime pas trop les trucs avec trop de paillettes, en fait. Donc, j'aime bien, mon préféré, c'est chocolat.
Ah, classique de chocolat, du coup.
Ouais. Classique.
Okay, chocolat de coco, bon, ça va. Ex aequo. Et enfin, du coup, pour finir...
Bon. Oui, on va terminer.
Donc, du coup, question de fin qui est aussi le sujet de cet épisode. En quoi l'humour queer est-il une révolution?
Eh ben, c'est une révolution parce qu'on ne nous l'a pas autorisé à faire jusqu'ici. Je suis consciente, en tout cas, me concernant, que quand je fais des blagues sur les hétéros pendant mon spectacle, même si ça dure 2 minutes, je sens que les gens sont pas habitués, quoi. C'est vraiment nouveau, et même après, pas quand je fais des blagues sur les hétéros, mais rire aussi d'instants de vie lesbienne, et que après c'est ma vie, mais je me rends compte que ça peut parler à d'autres personnes, et c'est ça qui est vraiment nouveau et qui est cool, quoi, qui fait avancer les choses, et qu'on n'est plus seul, on partage aussi nous notre humour. Donc voilà, je pense que c'est une révolution.
Tu as bien répondu à la question et tu crées du content pour les futures générations. On en a besoin. Merci beaucoup, Tani.
Ben, merci à vous.
Donc, Eva, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Non, c'est merci encore beaucoup. Ouais, c'était super cool de t'avoir avec nous. On espère que ça va exploser pour toi, que pour la suite.
Bah ouais, que je vienne jouer à Londres.
Ah, ça serait tellement bien.
Mais grave.
Pourquoi pas.
Ben, tu sais,
te trouver des dates.
Il y a une
endroits,
communauté queer francophone.
Oui, assez, oui. Il y en a.
Parce qu'en anglais, je ferais pas le spectacle en anglais.
Mais tu sais que Gad Elmaleh était venu au tout début où j'étais en Angleterre. Du coup, il était venu, il avait fait des dates à Londres en français. Donc, il y a une...
Oui, je pense que ça doit exister.
Ouais,
carrément. Ah, honnêtement, les Anglais aiment beaucoup, genre, c'est très, très... ils aiment beaucoup, en fait, la langue française en général. Je pense qu'un show pareil, genre, promouvoir quelque chose pareil, ce serait super huppé pour eux, en mode, oui, je vais aller voir un stand-up en français et tout ça, sur le sujet de la queer... Enfin, sur des sujets queer et tout, je pense
que ce serait le summum, quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais on peut t'arranger ça, t'inquiète pas. On sera tes managers. Bon,
Outre-mer.
Il faut faire ça.
Outre-mer. Merci beaucoup, Tani.
Merci à Tani pour nous avoir accordé du temps. Vous pourrez retrouver Tani tous les mardis sur Vivre FM, mais aussi en salle avec son One Woman Show à la Comédie des Trois Bornes sur Paris. Comme vous l'avez entendu, ces trois prochains shows sont complets, alors dépêchez-vous de réserver vos tickets pour les prochaines dates avant qu'il n'y en ait plus. Vous venez d'écouter Le Placard, émission préparée et présentée par Petite Eva et moi-même Méfi. Si vous avez apprécié cette écoute, on vous encourage à déposer un petit pouce bleu ou à laisser une étoile sur vos applis de podcast préférés afin d'améliorer son référencement. Merci beaucoup et à bientôt !